Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama du mercredi 13 avril. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent.
Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui on va parler de quelques films sortis en salle mercredi dernier, entre autres pour ma part Essential Killing de Jerzy Skolimowski. Et voilà, toujours de mon côté, je vous ferai un petit gros plan, sur la tétralogie Scream, puisque le quatrième opus sort en salle aujourd'hui. Voilà, donc je me suis replongé un petit peu dans ces slashers de Wes Craven, et je vous en ferai un petit compte-rendu.
Et quant à moi, eh bien, je vous parlerai d'un film qui est sorti le 30 mars, The Company Men, réalisé par John Wells, qui est encore projeté au cinéma Diagonal, et puis de Pina, de Wim Wenders, qui lui est sorti la semaine dernière. Et puis, eh bien, si on a le temps, seulement si on a le temps, parce qu'il y a une petite part d'improvisation dans cette émission Cinérama, puisqu'on arrive chacun de notre côté avec nos sons, on ne sait jamais combien de temps ça dure. Donc si on a le temps, eh bien, on écoutera Jean-Pierre Mocky, qui était présent à Montpellier ce week-end. Mais on commence avec le Pina de Wim Wenders. Danser, danser, sinon nous sommes perdus, disait Pina Bausch, la grande chorégraphe allemande disparue en juin 2009. Une phrase, un vœu, une injonction presque qu'on retrouve placée en sous-titre sur l'affiche du film Pina de Wim Wenders, le réalisateur du fabuleux Alice dans les villes, de l'étonnant Paris, Texas, du poétique Les ailes du désir, va jusqu'à indiquer sur cette même affiche un film de Wim Wenders pour Pina Bausch, indiquant là à quel point le réalisateur voulait plus que tout rendre hommage à une artiste qui a réussi à le transporter d'émotion à la vision de sa pièce Café Müller. Alors pour Pina, aussi parce qu'au départ le projet devait se faire avec la chorégraphe. Le projet aurait pu être stoppé net, mais les danseurs ont poussé Wenders à aller jusqu'au bout du projet, et c'est tant mieux. Les documentaires autour de Pina Bausch, eh bien, il y en a eu un certain nombre, avec ou sans elle. Le dernier en date et qui est sorti en DVD il y a peu s'intitule Les rêves dansants sur les pas de Pina Bausch, mais ce dernier raconte autre chose que le Pina de Wenders. Il s'attache à sa dernière pièce et au travail de jeune danseur inexpérimenté. Le Pina de Wim Wenders est un film dansé, selon les mots de son réalisateur. La danse y tient donc le rôle principal et les interprètes sont les danseurs, rien de plus simple. On entrevoit des pièces de Pina Bausch rejouées pour l'occasion et les danseurs défilent pour nous raconter comment était cette chorégraphe avec eux. Alors bien sûr, ils l'aiment comme Wenders qui met en place ce dispositif. Là, rien d'étonnant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la danse contemporaine et particulièrement celle de Pina Bausch, c'est une forme singulière qui peut être définie comme de la danse théâtre. Les danseurs peuvent parler, geindre, rire, pleurer sa vie. Et le spectateur est renvoyé à ses propres émotions. Rien à voir avec les tutus et les point-pointes de la danse classique. On a donc différentes séquences dansées et des danseurs qui s'expriment sur un même fond, en plan fixe. La danse est alternativement dans une salle de spectacle, mais aussi à l'extérieur, dans la ville, dans la nature, dans une pièce vitrée. Que sais-je encore ? C'est là une des forces du documentaire, voir des êtres dansants s'emparer de la vie dans le quotidien, apporter de l'émotion comme de la grâce près d'un carrefour, de la confusion dans la nature, en duo, en solo, en ballet, tout est à voir avec étonnement et ravissement. Et c'est là qu'est l'autre force du film de Wenders, c'est qu'il est tourné en 3D. Seul Hollywood faisait le fier avec cette technologie, et il faut bien l'avouer avec plus ou moins de bonheur, si quelques films bénéficiaient d'un plus indéniable dans leur forme grâce à cette nouvelle technologie, comme Avatar, bien sûr, ou même Trône. D'autres étaient décevants, tels Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. La 3D a été précisément un déclic pour Wenders. Sans elle, il n'aurait pas fait le film. Cette 3D nous permet d'être au plus près du spectacle, d'entrer davantage dans l'émotion. Ce dispositif de profondeur exceptionnelle ne remplacera jamais notre vision dans une salle de spectacle. Voir une pièce de Bausch et la regarder en 3D reste un abîme, mais avouons que c'est un plus dont on aurait tort de se priver. Voir virevolter des corps, à gauche, à droite, au centre, devant, derrière, en tous sens, nous plonge dans le spectacle à une place illusoire, mais qu'il est agréable de tenir.
Mmh.
Voilà, et là c'est un exercice, un grand tour de force, hein, parce que c'est une bande originale qui est évidemment très très visuelle, puisque eh bien, on voit essentiellement les danseurs, et que là la musique est juste un accompagnement. Alors pour parler, non pas forcément de Pina, le film de Wim Wenders, mais pour parler de la danse au cinéma, alors j'ai rencontré Tanguy Viel, Loïc Touzé et Mathilde Monnier qui présentaient au centre chorégraphique ce lundi et ce mardi une pièce qui s'appelle Nos images, sur un texte de Tanguy Viel, un romancier, mais qui est aussi un spécialiste de cinéma. Et donc je leur ai posé une petite question.
La représentation de la danse au cinéma, c'est pas souvent non plus quand même. Enfin là, c'est un travail un peu particulier, mais même dans le cinéma populaire, enfin les comédies musicales, c'est pas si souvent qu'on en voit.
C'est-à-dire, c'est pareil, ça correspond à une époque qui malheureusement est un peu finie, parce que je pense qu'il y a aussi une peur des producteurs de cinéma à faire revenir de la danse. Alors il y a des tentatives qui sont intéressantes, mais pas si fréquentes. Malheureusement, je pense aussi que dans le film de Pina Bausch, c'est un peu particulier. Moi, j'ai juste vu la bande-annonce, mais je pense qu'il y a une espèce de révolution quand même avec le 3D qui peut-être devient un peu l'outil qui va aussi amener d'autres films, je pense. Parce que la grande idée de la danse, c'est le 3D. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le sacre, quand la danseuse vient près de vous, c'est encore mieux qu'au spectacle.
Oui, j'ai pas trop d'idées sur la question. Je fais le même constat que vous, mais... Voilà, je sais pas trop, je vois pas pourquoi, parce qu'à un moment j'aurais dit, ben voilà, il y a eu un bel âge parce que c'était un cinéma heureux, etc. Mais après tout, quand Jacques Demy fait ses comédies musicales très fraîches, très picturales, très colorées dans les années 60, au même moment, il y a un cinéma beaucoup plus inquiet, beaucoup plus, voire subversif, enfin tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir les mêmes choses, les mêmes contrastes. Donc moi, j'ai pas d'explication à ça, en effet, c'est très bizarre. Mais il y en a des très belles... Enfin, c'est pas vraiment des comédies musicales, c'est plutôt souvent la chanson qui arrive à reprendre le pas, mais pas forcément la danse, ouais. Comme le film de Jacques Rivette, Au bas fragile par exemple, ou René.
T'as qu'on connaît la chanson.
Oui, on connaît la chanson, ouais.
Non, je crois que c'est intéressant de voir que c'est peut-être, effectivement, je suis d'accord avec Mathilde, en train de réapparaître, hein. Et il y a un espace pour le chorégraphique dans l'image, voilà, qui peut être passionnant à investir, hein. En Inde, quand même, tout le cinéma Bollywood n'arrête pas de danser et de chanter. On a aussi des choses à choper de cette énergie-là. C'est quand même génial de voir un film avec de la danse, quoi.
Ce qu'il y a, c'est que les spectateurs indiens, quand ils sont dans la salle de cinéma, paraît-il, j'ai jamais vécu, mais ils dansent eux-mêmes, oui, effectivement. Et qu'en France, bon, soit il y a le côté pop-corn, soit il y a le silence. Et
je dois dire qu'un de mes films, peut-être, si je revenais au top 10... quand même que j'aime beaucoup, c'est The Rocky Horror Picture Show, où il y a effectivement ce rapport entre la danse et la salle. Et c'est vraiment... Enfin, il y a une époque, à Paris, il y avait un cinéma qui le faisait tous les soirs. Les gens connaissaient par cœur, comme ça se faisait aux États-Unis, toutes les danses, toutes les répliques. Et c'était formidable de voir cet échange-là, voilà, entre l'écran et la salle, quoi.
Voilà, c'était l'avis donc de deux chorégraphes danseurs et puis d'un spécialiste ou d'un amoureux tout simplement du cinéma. Alors avant d'entamer peut-être un jour un spécial cinérama danse au cinéma, on va faire un petit blind test. Mm-hmm. Eh oui. Alors essentiellement musical, hein, parce que bon, il est question de danse mais aussi de musique qui ont résonné à l'intérieur de ces films. Alors c'est parti pour le premier extrait. Alors,
Let the Sunshine.
Alors, ça, c'est Julien Clerc qui avait fait une version française de cette chanson, qui est extraite d'un film, d'une comédie musicale, donc de Milos Forman.
R.
En 79, tout à fait. Il s'agit de R, donc voilà, c'était sur les hippies, la guerre du Vietnam, ces deux oppositions. Un film qui est arrivé très tard, qui était une adaptation, en fait, bien d'une comédie musicale à Broadway, mais qui était sortie juste avant les années 70, voilà. Donc qui a été ressorti très très longtemps après, la guerre du Vietnam était finie et puis les hippies, c'était fini aussi. Deuxième extrait. Ah, Alors Martin, bon...
Aucune idée, mais alors aucune idée. Non, il s'agit d'un des plus grands classiques de la comédie musicale, West Side Story.
De Robert Wise et Jérôme Robbins, ça je l'ai appris
Jérôme Robbins qui était le chorégraphe.
Ah oui, ben voilà, c'est pour ça qu'il l'associe. Et donc, bien ça, c'était d'après une comédie musicale de Leonard Bernstein et d'Arthur Lawrence. Et donc, le film date de 61. Et là, on entend ce que disait Tanguy Vielle sur cette forme enjouée, finalement, de la comédie musicale.
Même si le sujet c'est Roméo et Juliette, donc c'est pas non plus une grande comédie, c'est plus tragique.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il y a ce souffle, cette fraîcheur dans West Side Story, qui est un film qui vieillit pas,
effectivement.
Décidément.
Oui, que tu regardes tous les deux ans, trois ans, à peu près à ce rythme.
Oui, toutes les deux semaines même, on peut le dire.
Alors, c'est peut-être moins évident là. Parce
ça me laisse quoi ?
Ouais. Mais après là, c'est pas une bande. Enfin, ça fait partie de la bande originale du film, mais ce sont plein de musiques qui ont été rajoutées à cette bande originale. J'ai pas pris le morceau emblématique de ce film. Et si je vous dis, on ne laisse pas bébé toute seule dans un coin.
Ah, c'est Dirty Dancing.
Oui, absolument. Et qui s'appelait Danse lascive au Québec, curieusement, voilà. Et donc c'est un film d'Émile Ordolino qui est sorti en 87, un film très très qui a eu un énorme succès et que les filles particulièrement adorent, voilà. Avec Patrick Swayze. Voilà, c'était un tout petit blind test avec finalement
c'était
trois.
C'était court, hein.
Oui, c'était très court, trois styles différents. Je garde le gros blind test pour l'émission spéciale cinéma et danse.
Alors on va passer à quelque chose d'un peu moins enjoué et d'un peu moins dansant. On va passer au hurlement et à Scream, à la tétralogie, puisque Scream 4 sort en salle aujourd'hui. J'ai pu aller voir ce film hier soir en avant-première au Gaumont Multiplex. Et c'était l'occasion de faire un petit retour donc sur ces quatre films qui ont bouleversé un petit peu les codes du genre. Alors quand Scream, premier du nom, sort sur les écrans américains en 1996, les amateurs de cinéma d'épouvante en ont justement ras-le-bol qu'on leur propose toujours les mêmes films. Des suites innombrables de Halloween, le film culte de John Carpenter, aux suites innombrables des Griffes de la Nuit de Wes Craven, en passant par les suites innombrables de Vendredi 13 et les retours sans fin de son Boogeyman, les spectateurs drogués aux frissons sont de plus en plus gagnés par la lassitude et l'ennui. Et c'est précisément le moment que choisit Wes Craven pour renouveler le genre du slasher en s'amusant avec les codes établis et en proposant à la fois un vrai film de trouille et une sorte d'hommage respectueux à tout un pan du cinéma dont il a été l'un des plus mémorables artisans. Donc le scénario de Scream, écrit par Kevin Williamson, ressemble à s'y méprendre à un énième ersatz d'Halloween, avec sa bande de jeunes qu'un tueur en série va prendre pour cible. Sauf que dès les premières minutes, le cinéma fait irruption dans le drame. La scène d'introduction s'articule autour d'une conversation téléphonique devenue célèbre entre le tueur et sa victime.
Allô ?
Allô ?
Oui, j'écoute.
Qui est à l'appareil ?
Pourquoi ? Qui demandez-vous ?
Je suis à quel numéro ?
C'est vous qui avez appelé, vous devriez le savoir.
Ben non, je ne sais pas.
De toute évidence, vous vous êtes trompé.
Vraiment ?
Oui, c'est pas grave, ça arrive. Allô ?
Vous aviez raison, j'ai dû me tromper de numéro.
Pourquoi vous rappelez dans ce cas-là ?
Pour me faire pardonner.
Vous êtes tout excusé. Maintenant, au revoir.
Non, non, attendez, ne raccrochez pas.
Quoi encore ?
J'ai envie de vous parler.
Vous avez 36-15 pour ça. Allez, salut. Oui, allô.
Pourquoi refusez-vous de m'écouter ?
Qui êtes-vous à la fin ?
Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis.
Ah, non, pas question.
C'est quoi ce bruit ?
Du pop-corn qui grille.
Vous faites du pop-corn ?
Uh-huh.
Moi, je n'en mange qu'au cinéma.
Bah justement, je vais me regarder une cassette.
Ah oui ? Laquelle ?
Oh, je sais pas encore, un film d'horreur.
Vous aimez les films qui font peur ?
Uh-huh.
Quel est votre préféré ?
J'en sais trop rien.
Mais si, le premier qui vous vient à l'esprit.
Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters.
Ah, oui.
Et le vôtre ?
Devinez.
Oh, Les Griffes de la Nuit.
Avec le le type qui a des lames de couteau à la place des doigts?
Ouais, Freddy Krueger.
Freddy, oui, c'est ça. J'ai bien aimé celui-là. Ça faisait vraiment peur.
Le premier, oui. Les autres étaient craignos.
Oui, c'est vrai. Vous avez un petit ami?
Non. Pourquoi? Vous voulez me demander en mariage?
Peut-être. Vous avez un petit ami?
Non.
J'ignore toujours votre nom.
Ça vous avancerait à quoi de le connaître?
J'aime bien savoir qui je regarde.
J'aime bien savoir qui je regarde. Alors avec cette première séquence et les premières allusions directes au cinéma d'horreur, Wes Craven explique clairement au spectateur que son film ne sera pas comme les autres. La nouveauté, c'est que les personnages sont d'une certaine façon conscients d'être les protagonistes d'un scénario de film d'horreur. Ils sont tous des spectateurs réguliers et connaissent sur le bout des doigts les poncifs du genre. Donc cette irruption de la cinéphilie au sein de la fiction permet d'injecter une bonne dose d'originalité dans le déroulement des événements et de faire une série de références aux classiques de l'épouvante. Au détour d'un plan, Wes Craven enfile le pull à rayures et le chapeau de son personnage fétiche, Freddy Krueger. La comédienne Linda Blair, célèbre pour son rôle de possédée dans L'Exorciste, fait aussi une brève apparition. Quant au film Halloween de John Carpenter, qui est déjà cité dès la première scène, eh bien il occupe une place centrale tout au long du climax. Un des personnages qui est en train de regarder le film se retrouve par exemple dans la même situation que Jamie Lee Curtis, et ça donne lieu à une mise en abîme assez savoureuse.
Non, Jamie, pas par là. Fais gaffe. Fais gaffe, Jamie, il rôde dans le coin. Ah, tu devrais le savoir. Ah bah tiens, ah bah le voilà, il est là. Qu'est-ce que je te disais? Il est dans le coin, il est toujours dans le coin. Jamie, non. Oh, Jamie, non, pas de ce côté-là. Il va se pointer derrière toi. Derrière toi, Jamie, derrière toi. Oh mais non, quelle conne. Non, pas par là. Derrière toi. Jamie, derrière toi. Derrière toi!
Quoi? Ah bah tiens, voilà, il est là.
Il est dans la maison, vite! Il faut
qui?
S'en aller!
Il y a personne dans la maison, il y a que lui là!
Jamie! Non! Derrière toi! Jamie! Derrière toi!
Il est derrière toi!
Derrière
toi! Attends, j'arrive!
Oh, quelle conne! Mais non, papa!
Porte! Différé de 30 secondes!
Oh, t'as eu chaud!
Voilà, à noter que dans le troisième acte de son film, Wes Craven utilise aussi la bande-son d'Halloween et les cris de son héroïne, Jamie, incarnée par Jamie Lee Curtis, pour habiller certaines scènes et amplifier le suspense. On a l'impression que quelqu'un se fait étriper dans la maison, alors qu'il s'agit simplement de la bande-son du film d'horreur qui continue à tourner sur la télévision. Donc voilà, si Scream, c'est avant tout un authentique slasher qui réserve à ses spectateurs quelques jolis sursauts, c'est aussi une déclaration d'amour au cinéma de genre, une façon pour le réalisateur de bouleverser un certain nombre de conventions qu'il a lui-même contribué à forger.
Tenez, c'est ce passage-là.
Oh, c'est mauvais, regardez-moi ça. Ils ont jamais vu de sang ou quoi? On dirait du ketchup, ça craint.
Attendez, c'est pas fini.
Ouais, cool.
Je m'en doutais, c'est nul, c'est gros comme une maison.
Vous avez pas marre de regarder ces niaiseries?
Chut, je veux voir ces nibards, je veux voir les gros nibards de Jamie Lee. Quand est-ce qu'on la voit enfin à poil?
Oh, Jamie Lee dans un fauteuil pour deux, sorti en 83. Jamie n'avait que des rôles de vierge dans les films d'horreur. On ne voyait jamais ses seins. Ce n'était pas encore une star.
Elle n'avait pas encore ses prothèses.
C'est vrai. Elle sème toujours l'assassin dans la poursuite finale. La virginité est un rempart contre le mal. C'est une des règles du genre.
Quelle règle?
Tu ne connais pas les... À ta place, j'aurais honte.
Oh là là, il va nous faire un malaise cardiaque.
Dans tout bon film gore, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Procédons dans l'ordre. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Pas d'exception, jamais d'exception.
Il va se faire lyncher.
En langage gore, sexe rime avec mort, ok? Règle numéro 2, ne jamais picoler, ni se shooter. Boire est un acte avilissant qui conduit toujours à enfreindre la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais, dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite », parce qu'on n'en revient jamais.
Je vais chercher une bière, qui en veut une?
Ouais, je veux bien.
Je reviens tout de suite.
Ne respecte pas les règles, attends-toi à mourir. On te retrouvera avec un couteau dans le ventre.
À sa sortie, Scream a remporté un tel succès qu'une suite a été immédiatement mise en chantier, alors que le premier film était encore en exploitation. L'occasion pour Wes Craven et Kevin Williamson de développer leur univers et d'approfondir la mise en abîme qu'on trouvait en germe dans leur première collaboration. Avec Scream 2, qui sort en salle un an plus tard, le duo décortique, comme il se doit, le phénomène des suites, établissant dès le départ un jeu de miroir entre la réalité et la fiction. Dans la première scène, deux jeunes étudiants vont assister à une projection du film d'horreur Stab, librement inspiré des événements du premier opus. Donc le film dans le film devient rapidement un prétexte humoristique avec ses faux tueurs en pagaille, mais c'est aussi une façon maligne de questionner la réception du cinéma d'horreur par les spectateurs. De quoi donner au tueur un motif qui fait écho à certains faits divers bien réels et à une opinion souvent défendue dans les médias.
Le cinéma est responsable de mon état. Pas mal, hein ? Ça n'a encore jamais été fait. Et tout ceci n'est qu'une amorce, le prélude sanglant à un procès. Tout l'intérêt est là. Seule l'issue de ce procès restera dans les annales. L'influence du cinéma sur notre jeunesse. Les meilleurs avocats se battront pour plaider ma cause. Bob Dole témoignera à la barre pour me défendre. Les intégristes catholiques paieront mes frais de justice. Ça coule de source, Sidney. Je suis une victime.
Tu es un cinglé.
Oui, bon.
Encore une fois, dans Scream 2, les références au cinéma sont légion, alors pas seulement avec la mise en abyme et le film dans le film, mais par le biais d'une pléthore de titres énoncés ponctuellement par les personnages pour éclairer les événements. Mais bon, ce qui faisait l'originalité du premier film n'est plus aussi novateur dans cette suite, et comme le scénario suit globalement une trame identique, ce second volet s'avère moins marquant que son prédécesseur malgré de bonnes idées et quelques scènes particulièrement efficaces. Alors cette baisse de qualité du scénario, on la retrouve malheureusement dans le troisième opus. Peut-être parce que Kevin Williamson s'est désisté, vu qu'il était occupé sur d'autres projets et a laissé la place à un autre scénariste. Toujours est-il que dès la scène d'introduction, devenue un incontournable de la franchise, le rythme s'avère poussif. Alors que les deux premiers films misaient beaucoup sur cette première apparition du tueur en série, Scream 3 s'ouvre mollement et cette médiocrité se prolonge tout au long du film. L'action se déroule à Hollywood sur le tournage de Stab 3, donc troisième film dans le film de l'univers Scream. Le tueur s'en prend cette fois-ci au comédien de cette série B d'horreur à petit budget, inspiré encore une fois des mésaventures de Sidney Prescott, l'héroïne de la saga. Alors sur fond de meurtre, l'autocritique et la mise en abîme, qui sont devenues les marques de fabrique de la franchise, vont se poursuivre ad nauseam, sans pour autant que l'intérêt des spectateurs ne soit particulièrement ravivé.
Bon, si je fais ce film, c'est avant tout pour vous aider et que ma mort serve à quelque chose. L'œuvre de ma vie évitera peut-être à de pauvres innocents de finir complètement mutilés. Si le tueur fait son comeback, je veux dire un vrai comeback, il y a plusieurs choses que vous devez vous rappeler. Si c'est simplement une suite, alors la règle du jeu ne change pas. Mais, et voilà le hic, si vous vous retrouvez confronté à une histoire du passé inédite et que l'exposition dure un peu trop, alors oubliez tout ce que vous pensiez savoir, parce que vous n'avez pas affaire à une simple suite, mais au chapitre final.
D'une trilogie.
Trilogie. C'est ça. C'est assez rare dans les films d'horreur, mais ça arrive. Et là, il vaut mieux s'y connaître. Parce que dans une trilogie, c'est toujours la même chose. On en revient au commencement et on découvre quelque chose qui n'était pas vrai au départ. Le parrain, Jedi, tous nous montrent que ce qu'on croyait vrai ne l'était pas. Alors, si c'est à une trilogie que vous avez à faire, voici le mode d'emploi d'une trilogie. Premièrement, le tueur est un peu comme Superman. Le buter, pas la peine. L'éventrer, ça marche pas. En principe, dans le troisième, vous devez cryogéniser sa tête, le décapiter ou bien le faire exploser. Deuxièmement, tout le monde est susceptible d'y passer, même les ruines. Je parle de toi, Sid. Désolé. C'est le chapitre final. Ça peut finir comme dans Reservoir Dogs, si vous voyez le tableau. Troisièmement, le passé revient pour vous botter méchamment le cul. Oubliez ce que vous savez du passé, parce que le passé revient toujours. Toutes les fautes qui ont été commises dans le passé vont bientôt refaire surface et vous détruire. Conclusion, je vous souhaite bonne chance, Dieu vous bénisse, pour certains, à bientôt.
Finalement, avec Scream 3, Wes Craven tombe dans les travers que dénonçait le premier opus, et le film se révèle être une de ces suites sans grand intérêt que l'usine à rêve produit à tour de bras dès qu'une franchise s'avère lucrative. En plus, alors que les spectateurs s'attendaient à une surenchère ou au moins une continuité dans la violence graphique, ce troisième film est beaucoup moins sanglant que les précédents. En cause, le massacre de Columbine, qui a défrayé la chronique quelques mois avant la sortie du film, et qui a poussé les producteurs et le réalisateur à adoucir certaines scènes et à privilégier les meurtres hors champ. Alors qu'en est-il de ce quatrième opus qui sort aujourd'hui, donc
Plus de 10 ans sont passés depuis Scream 3 et le cinéma d'horreur a bien changé. À l'heure des hostels et autres saucisses et saucettes, le genre est maintenant plus souvent racoleur, ultra-violent et traité de façon générale avec un sérieux mortel, c'est le cas de le dire. Un exemple édifiant de ce manque de distance, c'est le remake des Griffes de la Nuit qui abandonne totalement la dimension un peu cartoon du film original et qui s'avère être une bien mauvaise copie d'un des plus grands classiques du slasher. Donc avec Scream 4, nous retrouvons cet humour noir typique qui a fait en partie le succès de la série, mais qui s'était affadi dans les épisodes 2 et 3. Le film s'ouvre sur un joli pied de nez aux franchises interminables type Saw ou Vendredi 13, et le scénario se penche à la fois sur le phénomène des remakes et sur les films d'horreur tournés en caméra subjective, comme Rec, le projet Blair Witch ou Paranormal Activity. Donc ces deux axes, qui prolongent les questionnements des trois premiers films sur les codes du genre, les suites et les trilogies, donnent un nouveau souffle à la traditionnelle histoire de meurtre en série. On retrouve avec plaisir le trio de comédiens Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox qui rempile pour un nouveau massacre. Et l'on s'amuse encore une fois des références que Wes Craven glisse dans son film. Comme toujours avec les Screams, l'amateur de films d'épouvante est caressé dans le sens du poil avec des citations de Shaun of the Dead ou Suspiria par exemple. Et aussi des nombreux remakes récents des classiques de l'horreur, de Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, Piranha, etc. Donc le scénario est plutôt bien ficelé, on s'amuse avec les attentes du public de fans hein, qui constituent la cible principale de Wes Craven et Kevin Williamson. Alors si on peut trouver que l'histoire se répète, c'est cette fois-ci de façon très consciente, et la révélation de l'identité de Ghostface, le tueur récurrent de la saga, devrait à nouveau en surprendre plus d'un. Donc une bonne surprise en somme que ce film que personne n'attendait, et un vrai retour en forme de Wes Craven qui à l'aube de ses 72 ans a encore quelques jolis petits tours dans son sac. Alors un regret quand même, Scream 4 s'avère moins flippant que ce à quoi je m'attendais, mais peut-être que c'est moi qui suis devenu un blasé que plus rien ne fait sursauter. Voilà, donc Scream 4 passe dans les grands cinémas type multiplex, en VF et en 2D, puisqu'il n'a pas été tourné en 3D celui-là.
Ouais, étonnant, hein ?
Oui.
Je pensais qu'il l'aurait fait. Pardon.
Donc un film, oui, à réserver aux amateurs, voilà, qui retrouveront avec plaisir l'univers et l'humour de Wes Craven, voilà, qu'on avait perdu un petit peu dans les épisodes 2
dans
et 3.
Dans le 3, hein, visiblement. The Company Man, réalisé par John Wells, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. La trentaine, des bons scores au golf, un intérieur propre, spacieux et rempli d'objets électroniques design, une Porsche toute neuve dans le garage et le costard sombre qui va bien. Bobby, Ben Affleck, incarne la réussite, le fameux rêve américain, et il est plutôt satisfait de lui-même. Mais en quelques minutes, tout bascule et il doit prendre ses petites affaires pour aller voir ailleurs. Sa société, qui s'occupait de construction navale, ne veut plus miser sur les hommes mais préfère avoir les bonnes notes des actionnaires. On sacrifie, on coupe des têtes pour que l'action redécolle et que le profit revienne. Deux autres personnages sont aussi dans cette entreprise. Il y a Phil, un type qui a commencé en bas de l'échelle puis petit à petit s'est retrouvé parmi les bons cadres et qui comprend que passé la cinquantaine, eh bien, il ne faudrait pas qu'il se retrouve à pointer au chômage. Et puis il y a Jean, le vice-président, interprété par Tommy Lee Jones, un type qui sent que les choses lui échappent, que le monde a changé, que ses repas à $500, son jet privé, ces choses qu'il aime, s'il les a eues, c'est que quelque chose déjà foutait le camp. Précisément la place des hommes dans tout ce délire matériel. The Company Man de John Wells nous raconte comment ces trois hommes vont changer, comment leur assurance tenait au rang social qu'ils avaient. Alors, ben, je suis parlu. Alors, en perdant leur boulot, certains doivent se cacher à leurs voisins pour garder la face. Le trentenaire Bobby, qui a deux enfants, doit aller plus loin, chercher un boulot bien mal payé. Et pourquoi pas un job sur un chantier tenu par son beau-frère, Kevin Costner, qui fait plaisir à voir. Fini l'individualisme triomphant, on devient modeste et on s'appuie sur la famille. L'autre personnage qui apparaît le plus à l'écran est le vice-président, Jean, un type désabusé qui supporte sa femme parce qu'il a une maîtresse, qui est l'ami de 40 ans du grand patron, le PDG qui devient, à la faveur du dégraissage, la 17e fortune du pays. Un homme qui sent bien que tout cela est pourri et que le bon sens n'est plus la chose la mieux partagée, pas plus que les richesses. The Company Men avance tranquillement, nous montrant le parcours de ces trois hommes, virés les uns après les autres, les solutions qu'ils trouvent, certaines sont plutôt radicales. La finance n'est pas mise en spectacle, c'est juste un élément perturbateur dans le scénario. En suivant ces trois hommes, on gratte le vernis illusoire du fric à tout va, de la richesse à tout prix. On retient la petite morale sur les temps qui ont changé, cette compétition si chère au système américain qui semble maintenant leur être défavorable, ces ouvriers qui peu à peu désertent les chantiers. Alors, The Company Men est un film lent, qu'on prend le temps de digérer. C'est un anti-Fight Club, au sens où le film de Fincher sur un sujet semblable, l'individualisme, le calcul des risques et le besoin de possession dans le monde moderne, était insolent, critique et dérangeant. The Company Men est lent, serein et mélancolique. La lumière y est froide, la mise en scène se fait discrète et les acteurs contribuent à la qualité de l'ensemble. Alors, ça reste du cinéma américain, avec des winners pas tout à fait foutus. Le cinéma français aurait, lui, développé la chose en prenant frontalement chaque thème développé ici. Ressources humaines de Laurent Cantet nous plongeait dans la lutte patron-ouvrier à l'intérieur d'une usine. L'emploi du temps du même Laurent Cantet explorait la vie d'un type qui cachait à tout le monde qu'il avait perdu son emploi. Violence des échanges en milieu tempéré, enfin, de Jean-Marc Moutou mettait en scène un jeune type avec ses doutes qui opérait un dégraissage dans une petite entreprise pour qu'elle soit mécanisée et compétitive. The Company Men effleure les thèmes développés magistralement par ces trois films qui sont tous disponibles en DVD, tandis que The Company Men est seulement visible au cinéma Diagonal en version originale sous-titrée. Pour, puisque je parlais un peu de la distinction cinéma américain-cinéma français, on va réécouter donc Tanguy Viel, romancier et cinéphile averti, nous parler du cinéma français. C'était à l'intérieur donc de ce spectacle Nos Images.
Nous autres Français, nous n'avons peut-être pas de très bons cinéastes, mais nous avons de très bons critiques. Dès lors qu'on appartient à un pays qui a passé des siècles à faire salon, qui a inventé à peu près toutes les formes de fauteuils pour faire la conversation, dès lors qu'on appartient à ce pays, dis-je, il n'y a pas d'alternative. C'est même pour ça que nous sommes meilleurs critiques que les Américains. Mais c'est pour ça aussi que nous sommes moins bons cinéastes. Le cinéaste français assis dans un fauteuil passe son temps à réfléchir, et à la fin, il essaye de mettre sa pensée en image. Et évidemment, ça ne marche pas, parce qu'à chaque fois qu'il met sa pensée en image, il continue de penser. Et donc, l'image suivante essaie de suivre la pensée qui a surgi de l'image précédente, et ainsi de suite. De sorte que toutes les images du cinéma français ont comme un temps de retard, toujours un peu désynchronisé, tandis que les images américaines, elles, sont synchrones. Les Américains pensent à la vitesse de la lumière et donc à la vitesse de la pensée. Ils ne courent pas après l'action en parlant et en gesticulant comme un acteur français. Les Américains n'ont pas Jean-Paul Belmondo, ils ont Clint Eastwood. Nous autres Français, je vais vous dire ce que nous aimons. Nous aimons nous morfondre dans l'inaction et dans le drame de nos phrases solitaires, pourvu de ne jamais joindre le geste à la parole. C'est pourquoi nous avons Jean Eustache, c'est pourquoi nous avons Jean-Luc Godard et Marguerite Duras.
Tanguy Viel, voilà. Qu'on peut lire avec son roman, enfin le seul que j'ai lu, moi, qui s'appelle Cinéma et qui parle d'un film de Mankiewicz, le dernier qui s'appelle Sleut, un film que le personnage a vu plus d'une trentaine de fois.
C'est édifiant, en tout cas, tout ce qu'il raconte. Bon, on va passer au cinéma polonais, puisqu'on a couvert le cinéma américain et français. Donc, Essential Killing de Jerzy Skolimowski. Le film s'ouvre sur l'aridité du désert afghan. Un trio de soldats américains arpente la roche brûlante dans une mission secrète dont on ne saura rien. Pris en tenaille entre les soldats au sol et les hélicoptères qui quadrillent le ciel, un homme est rapidement fait prisonnier. Harcelé, torturé et finalement déporté à l'autre bout du monde, il parvient par miracle à s'échapper à la faveur d'un accident. Et c'est le début d'une fuite en avant et d'un combat sans pitié pour la survie dans un environnement hostile et inconnu, aussi glacial que pouvait être ardent le soleil du désert. Alors le film de Skolimowski est un survival, dans la grande tradition des chasses du comte Zaroff ou du chef-d'œuvre de John Boorman, Délivrance. Il possède donc un rythme qui le rapproche du film d'action ou du thriller, et cette descente aux enfers d'une heure et demie passe en un éclair. Mais nous sommes également devant un film d'auteur. Ici, pas de fioritures, aucun chasseur mégalomane, aucun bouseux consanguin à la sexualité bestiale, aucun monstre qui hante les profondeurs d'une grotte.
Ici, la grande menace, c'est la cruauté de la nature, la faim, le froid, la peur. Donc la sobriété de l'histoire fait plus penser à celle du film Guéri de Gus Van Sant ou à Seul au monde de Robert Zemeckis plutôt qu'à Survival of the Dead du père Romero. Donc dans cette grande évasion, ce qui pousse le personnage en avant, ce sont ses instincts primaires de bête traquée et perdue. À des milliers de kilomètres de chez lui, de la chaleur de son foyer, il n'est plus rien qu'un humain blessé qui lutte contre le désespoir et régresse petit à petit vers l'animalité. Donc Jerzy Skolimowski nous propose un trip vertigineux dans une nature magnifique et anxiogène. Pour incarner ce personnage qui n'a pas une seule ligne de dialogue, le réalisateur a choisi Vincent Gallo, un acteur caméléon qui enfile la barbe et le turban avec une facilité déconcertante. Il habite avec une vraie hargne cet homme qui sait que sa fuite est vaine et qui préfère devenir une bête plutôt que se rendre. Donc récompensé l'année dernière par le jury de Tarantino à la Mostra de Venise pour ce rôle physique et capital, Vincent Gallo confirme tout le bien que j'en pensais après l'avoir vu chez Claire Denis et Abel Ferrara, entre autres. Donc Essential Killing, c'est un survival contemplatif et métaphysique. Au-delà du prétexte géopolitique et militaire qui est textuellement identifié et des différents flashbacks qui nous font découvrir le passé de cet homme, on ne sait pas grand-chose de lui au final. Il a une femme et un enfant, il est musulman, a croisé des dromadaires par le passé, est habitué au sable chaud plutôt qu'à la neige, aux pieds jaloux et aux polonais bourrés à la vodka. Le ton est âpre et la violence se présente dès la première scène, à grand renfort de roquettes air-sol. Mais le film garde quand même une touche de folie qui fait parfois basculer le chemin de croix du personnage vers l'absurde, comme dans cette scène où, ayant trouvé des baies comestibles mais hallucinogènes, le personnage décide malgré tout de s'en faire un festin, ou encore l'encerclement d'une palombière perdue au fin fond de la forêt polonaise par des soldats américains sur les dents et armés de pied en cap. Donc Skolimowski pose la question de la fragilité humaine de ses besoins primordiaux alimentaires. Il nous montre la disparition de la morale, depuis la folie guerrière jusqu'à la page blanche, la dissolution complète dans une animalité mieux adaptée à la brutalité de la nature. Dans les quelques scènes où elle apparaît, Emmanuel Seigné apporte un souffle d'humanité qui réchauffe le cœur du personnage comme celui des spectateurs. Mais à part cette brève étincelle de chaleur, le film est froid comme la mort. Et ce qui est fort, c'est que l'on ne s'ennuie pas une seconde. Extrait de la bande originale de Essential Killing de Jerzy Skolimowski, donc un film que je vous recommande chaudement, voilà, une vraie expérience, un ovni à découvrir en salle pendant qu'il passe, parce que ça m'étonnerait qu'il fasse une très longue carrière.
Je sais plus combien il était resté à l'écran, 4 nuits
4 nuits avec Anna.
Avec Anna qui était, c'était il y a 2 ans à peu près.
Oui, je crois. Ouais.
Parce que c'est quand même un réalisateur qui s'est arrêté pendant longtemps et puis qui a recommencé le cinéma, je crois, avec 4 nuits avec Anna. Ouais.
Mais qui était déjà plutôt intéressant. Ouais, comme,
ah, qui était
comme
très
film,
intéressant,
ouais.
Oui, absolument. Enfin, mais plutôt plastique, avec très peu de dialogue, oui. Mais sans doute un peu plus quand même que.
Oui, là, il y a vraiment une page en tout et pour tout de dialogue.
Et là, ce qui est intéressant,
enfin, de monologue,
c'est.
Puisqu'il n'y a quasiment aucun échange, il n'y a vraiment quasiment aucun dialogue. Mm. C'est que des petites phrases de temps en temps, mais très rares. C'est surtout la gueule de Vincent Gallo dans la neige. Mm. Et c'est fort.
C'est un...
Vincent Gallo, hein, qui a... bah, qu'on ne fait pas forcément tourner, hein, qui n'est pas un comédien facile, qui de toute façon n'a pas l'aura dans les grands studios. Il a joué en revanche dans le dernier Coppola.
Oui,
parce que tu as cité Claire Denis. Voilà.
Mais je n'avais pas vu le Coppola, il doit être, sans doute être très bon, mais je l'avais vu dans Funérailles de Ferrara et dans Trouble Every Day de Claire Denis. Où, ouais. Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, il illumine l'écran, enfin, il est assez impressionnant.
Très charismatique, oui.
Voilà, un film que je vous recommande d'aller voir pendant qu'il est encore en salle, il passe au Diago, entre autres.
Et nous allons passer cette fois-ci à l'interview événement, celle qui concerne Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky qui était le président des rencontres du cours qui sont déroulées ce week-end à Montpellier. L'interview durait un peu longtemps, je dois l'admettre, une bonne demi-heure. J'en ai conservé 15 minutes. 15 minutes où finalement il était question de qu'aimait Jean-Pierre Mocky. Alors on va parler aussi un peu de sa filmographie, mais de ce qu'il voyait dans le cinéma français actuel et passé. On écoute.
Vous êtes prêts ?
Oui, ben je suis Jean-Pierre Mocky, un cinéaste français. Voilà, je suis à Montpellier pour un festival du cours, dont je suis le président du jury, donc on va voir 11 films de jeunes et on va donner un prix ce soir à un de ces films, voilà.
Alors justement, on dit souvent que le court-métrage, c'est le premier pas vers le long-métrage. Il se trouve que vous avez réalisé plus de 67 films, c'est bien
ouais, ça 67, 70, ouais, ça dépend comment on les prend. Parce que j'ai fait pas mal de films. Par exemple, là, je viens de faire 24 films de 26 minutes. Alors si on divise par 3, ça fait 8. Donc 8 d'une heure 30, en fait. Donc ça ferait que j'en ai fait... 60 plus 8, 68. Voilà, vous avez dit 67, mais voyez, vous n'êtes pas très loin.
Donc 68, vous avez débuté dans les années 60, hein, pour résumer.
J'ai débuté en tant que réalisateur à cette époque-là. Mais avant, depuis les années 46, depuis que j'avais 13 ans jusqu'aux années 60, c'est-à-dire quand même pendant 14 ans, j'ai fait 100 films comme acteur, 100. Alors quand je dis 100 films, il y avait aussi des films où je disais une phrase ou deux. Donc j'ai même fait un des premiers films de Michelangelo Antonioni en Italie. Donc j'étais assistant de Fellini, de Visconti. Donc j'ai fait une grosse carrière avant de commencer à être réalisateur. J'ai tourné énormément de films comme acteur. Donc après j'ai décidé de changer, de devenir réalisateur et... Des années 60 à aujourd'hui, je fais de la réalisation et parfois, je tourne quand même un rôle dans mon propre film. Ou alors, comme je l'ai fait cette année, un film avec d'autres metteurs en scène, où je fais l'acteur de nouveau. Voilà.
C'est vrai que vous êtes une espèce de mémoire du cinéma, parce que comme vous le dites, vous avez tourné en tant qu'acteur avec des grands réalisateurs. Vous-même, vous avez une filmographie conséquente, où vous avez fait tourner... un nombre incalculable d'acteurs, et parmi les plus grands, enfin, il y avait Michel Serrault, il y avait Bourville, il y avait tout cela. Vous avez vu les transformations, visiblement, de la production cinématographique française.
Mais oui, mais c'est-à-dire que dans les années 46, où j'étais acteur jusqu'aux années 60, en fait, les jeunes réalisateurs n'existaient pas. C'était que des vétérans, des gens qui avaient débuté leur carrière en 1930, qui occupaient le haut du pavé. Et pour un jeune réalisateur, c'était très très difficile de rentrer dans le métier. C'était fermé, c'était rien que des vieux qui étaient là. Et jusqu'en 60, il y a eu une poussée de jeunes pour ce qu'on appelait la nouvelle vague. Jusqu'à cette époque-là, il était pratiquement impossible à un jeune de rentrer dans le circuit parce que c'était gardé en quelque sorte, c'était une chasse gardée. Et puis, les journalistes ont joué un grand rôle dans cette mutation entre l'ancienne vague et la nouvelle. Et si on les a appelés la nouvelle vague, c'est que la plupart de ces nouveaux réalisateurs n'étaient pas dans le métier. C'était généralement des journalistes, des photographes, des gens comme ça, des acteurs. Et ils ont balancé en fait les vieux. Il y a eu une espèce de révolution culturelle qui a précédé la fausse révolution de 68, donc, où des journalistes ont dit « il y en a marre de voir toujours les mêmes films et tout ça, donc on va faire autre chose ». Et ça a été l'avènement de Truffaut, Godard, moi-même et tous les autres, tous ceux qui ont participé à ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Mais dans cette nouvelle vague, il y a eu deux tendances. Une tendance intellectuelle, qui était celle, si vous voulez, des journalistes férus de cinéma qui se sont institués metteurs en scène.
Pourquoi t'as l'air triste?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Et que toi on peut pas avoir de conversation. Hein? Jamais d'idées, toujours des sentiments.
Mais c'est pas vrai, il y a des idées dans les sentiments.
Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence.
Et puis il y avait des gens comme moi, Vadim, Robert Hossein, des gens comme ça, qui étaient quand même déjà dans le métier depuis 1946, donc qui n'étaient pas nouveaux dans le métier, et qui ont suivi, si vous voulez, cette espèce de d'éclatement, d'envahissement des jeunes, du cinéma par les jeunes. Donc il y a eu la nouvelle vague, issue de tous ces journalistes, et dans cette nouvelle vague, s'est additionné tous les jeunes réalisateurs qui n'en faisaient pas partie, qui étaient des professionnels, comme moi, qui avait quand même une grosse expérience du cinéma, et Hossein aussi, Vadim et tous ces gens. Et on s'est mal marié, c'est-à-dire que finalement, la nouvelle vague a pris ses quartiers, elle a décidé d'être la vague qui était, si vous voulez, qui était appuyée par les critiques et par un certain public, généralement un public d'étudiants d'ailleurs. Et puis on a, nous, continué à vivoter à côté. Et on a été souvent assimilés nous-mêmes à la nouvelle vague, mais enfin on n'en faisait pas partie, quoi. Et le temps a passé, les gens de la nouvelle vague sont devenus vieux, ils sont morts. Truffaut est mort en 85, donc pratiquement 25 ans après son début. Les autres, lui, Mal est mort aussi. Après il y a eu Chabrol qui est mort, enfin Romère qui est mort. Enfin, finalement, mais ils ne sont pas vraiment morts, parce qu'ils étaient déjà, j'allais dire, ils étaient déjà morts avant de mourir, parce qu'à ce moment-là est née une nouvelle, encore depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle catégorie de réalisateurs qui ont été surtout, et ça a été vraiment un mouvement assez important, c'est des acteurs qui se sont qui sont devenus réalisateurs. C'est-à-dire que les acteurs n'étant plus tenus, si vous voulez, par les règles qu'il y avait avant la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il était pensable que Gabin, Bourville fassent des films comme metteur en scène, ça, il leur venait même pas à l'esprit, parce qu'il y avait des grands metteurs en scène, c'était pas la peine pour eux d'essayer de réaliser un film, donc ils se laissaient diriger par des grands. Et puis quand il n'y a plus de grands, que la nouvelle vague a commencé à capoter, ben les jeunes acteurs se sont dit, pourquoi engager un connard pour faire la mise en scène, on va faire nous-mêmes. Alors il y a eu Gérard Jugnot, il y a eu Michel Blanc, Balasco, enfin alors toute cette série-là de gens qui ont commencé à se réaliser eux-mêmes. Maintenant il y a Gad Elmaleh, il y a eu même Depardieu qui est devenu metteur en scène. Après, tout le monde est devenu metteur en scène. En fait aujourd'hui, Guillaume Canet fait de la mise en scène, plein de gens font de la mise en scène. Donc, Danny Boone, vous voyez, alors tous ces gens-là, finalement, deviennent... Oh, excusez-moi.
Oui. Allô.
Qu'est-ce que je peux faire?
Allô.
Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire.
Oui. Allô.
La nouvelle génération, donc, ce sont des acteurs pour la plupart qui font de la mise en scène maintenant. Donc, dans les vieux vétérans comme moi qui ont 78 ans, ben, il reste Molinaro. Lautner, qui est beaucoup plus vieux que moi d'ailleurs, René, qui tourne en ce moment d'ailleurs, un film à 90 ans. Voilà, alors il y a ces metteurs en scène-là, à l'étranger vous avez Oliviera, vous avez encore quelques metteurs en scène, de l'ancien temps qui existent. Vous avez des étrangers comme Gatliff, ou par exemple Ruiz, ou des gens comme ça qui continuent à travailler aussi, Costa Rica, des types comme ça. Voilà, vous avez des franco-allemands comme Wim Wenders, tous ces gens-là, qui sont toujours sur Scorsese pour les Américains, Spielberg, tout ça. Donc vous avez, disons, mondialement une vingtaine ou une trentaine de metteurs en scène qui sont de l'ancienne époque. Et voilà, et aujourd'hui, voilà le cinéma français international. Il est donc géré par... Alors les acteurs aussi ont disparu. Bourville est mort, Gabin est mort, tout le monde, Girardeau vient de mourir. Et finalement, les acteurs ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des grands, des espèces de monstres sacrés, absolument exceptionnels par le talent et par le physique. On est confronté à des acteurs qui sont pas mauvais, mais qui n'ont pas tellement de charisme, comme si le public d'aujourd'hui ne recherchait pas forcément le charisme d'un acteur, mais plutôt son côté caméléon, si vous voulez, de se confondre avec le public. C'est-à-dire, finalement, les acteurs et les actrices ont tendance à ressembler au public. Alors qu'avant, si vous voulez, le public avait des idoles comme Marlon Brando, Brigitte Bardot, Garbo, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, etc. C'est cette espèce de recherche du charisme de l'acteur a disparu.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Alors on est devant un cinéma bizarre et qui français où vous avez des acteurs qu'on voit dans un film et puis on s'en souvient pas dans le prochain. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais ils ne marquent pas. Ce sont souvent des acteurs de théâtre qui font du succès au théâtre, mais le théâtre c'est pas pareil. On n'a pas besoin de gros plans, on n'a pas besoin de regards parce que les acteurs de théâtre ils sont loin. Donc leur talent c'est de dire bien des phrases, d'avoir des mouvements sur scène, etc. Mais c'est jamais des gros plans. Par conséquent, s'ils n'ont pas de regard, par exemple, c'est pas très grave parce qu'ils sont loin. Mais dès qu'ils rentrent au cinéma, s'ils n'ont pas de regard, ça devient grave parce qu'ils s'en foutent, quoi.
Vous regardez quand même le cinéma actuel, parce que vous continuez à faire des films. Hein. Vous avez fait jouer Bruno Puzulu, qui fait partie de la jeune génération. Donc vous continuez à regarder quand même des films. Quel film vous allez, finalement?
Moi, si vous voulez, les films que j'essaye de voir en tant que spectateur sont des films, généralement, qui ne traitent pas de sujets qui m'intéressent. Par exemple... on vient de faire un film qui s'appelle les habitants du sixième étage, je ne sais pas quoi, un truc sur des bonnes espagnoles et M. Lucchini qui se balade dans les chambres de bonnes, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc...
Mais je te dis que j'ai été dîner chez les espagnols du sixième étage.
Mais arrête de dire n'importe quoi.
À partir de là, quels que soient les acteurs qui jouent dedans, si vous voulez, c'est quelque chose de la part du gâteau, par exemple, de mon ami Clapiche. J'aime pas son film, là. J'aimais bien ses films, mais celui-là, je ne l'aime pas. Parce qu'en fait, ces personnages qui met en scène ne m'intéressent pas. Moi, je me fous des Golden Boys, des femmes de ménage, tout ça. C'est pas que je les aime pas, mais je trouve qu'il y a trop de sujets importants dans la vie pour s'attarder à passer une heure et demie sur un film dont le sujet n'est pas passionnant. Donc.
C'est moi qui ai dézingué la boîte avec des copains.
Dézingué la boîte.
C'est à cause de lui que la boîte, elle a fermé.
Donc je ne vois pas ces films d'une part, et d'autre part, moi-même je n'en fais pas, bien évidemment. Mon défaut serait de ne faire que des films à thème, c'est-à-dire des films où il faut défendre quelque chose, une cause, une catégorie d'individus qui sont brimés, comme les SDF ou comme je ne sais pas quoi, et les émigrés ou je ne sais pas quoi. Moi je suis plus intéressé par ce genre de sujet, ou par des scandales, par exemple la corruption, plein des dossiers médicaux sur les mauvais médicaments, etc. Ou la nourriture, par exemple, tout ça. C'est des sujets qui me plaisent parce qu'ils montrent une avancée, si vous voulez. Le cinéma devient à ce moment-là quelque chose d'utile parce qu'il dénonce des scandales, etc. Alors il y a eu pas mal de réalisateurs comme ça dans le temps, que ce soit en Amérique, en Italie et même en France. Mais on a tendance à les étouffer, ces gens-là, pour des raisons politiques. On ne veut pas raconter des choses qui se passent, parce qu'on veut les enterrer. Alors quand un réalisateur dit je vais faire un film sur un sujet chaud, on ne trouve pas de financement. Et comme la télévision aujourd'hui est un moyen de financer des films, la télévision fait blocus. Elle dit ben non, m'occupe pas ça, ça, tu vas faire autre chose, fais une connerie quelconque, mais pas ça. Donc c'est au fond le gouvernement qui empêche de fabriquer de ce genre de film, alors que normalement, un gouvernement français qui se dit libre, liberté, fraternité, égalité, devrait aider au moins partiellement ce genre de film à exister. Et non, et il ne le fait pas. Donc il donne priorité à des films sans intérêt et il ne soutient pas. Alors je ne parle pas que de moi, je parle de toute une série de réalisateurs qui ne peuvent plus tourner. Yves Boisset, des gens comme ça, qui étaient des gens qui se battaient pour des sujets importants, mais ils ne peuvent plus travailler. Alors, je ne sais pas si c'est un bien, si les élections de 2012 changeront la donne, si le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, donnera un petit peu d'audience et de moyens à ce genre de film. Mais si vous prenez le patrimoine du cinéma français, vous allez vous apercevoir que autant il y a eu des films sur les congés payés de 36, il y a eu des films sur la guerre, sur le nazisme, sur ceci ou sur cela, ces films aujourd'hui sont pratiquement inexistants. C'est-à-dire au fur et à mesure des années, et nous sommes en 2010, 11, eh bien on essaye de fuir ces sujets, comme s'ils faisaient peur. Et on n'informe pas évidemment le public, et on le déshabitue de voir ce genre de films.
Moteur, moteur!
Vas-y, vas-y Jean-Pierre!
Moteur! Moteur!
Allons-y!
Moteur!
J'avoue que je m'en lasse pas hein, de cette espèce d'hystérie sur le tournage donc d'un film de Jean-Pierre Mocky, qui a une vision contestable, pour ma part, du cinéma, mais c'est la sienne. Après tout, c'est quand même un grand monsieur hein, qui a commencé à faire ses films dès 58 et qui en a fait à la pelle. Son dernier, je vous ferai l'économie d'une chronique, hein, parce que c'est présenté comme un film qui est une connerie. Hein. Il l'annonce au début du film, et c'est effectivement une grosse connerie. Et voilà, ça ne mérite pas. Ça mérite trois lignes, quoi. Voilà. Donc, nous retrouverons sans doute d'autres extraits au fil des émissions de Cinérama, puisque l'entretien a duré un peu plus longtemps. On passe aux événements. Jeudi 4 avril à 20h, salle Rabelais à Montpellier, c'est le ciné-club Jean Vigo qui présente Série Noire d'Alain Corneau. Grand film avec Patrick Devers, Myriam Boyer, Marie Trintignant et Bernard Blier. Le vendredi 15 avril au Comédia à 7 à 20h30 et ce sera suivi d'un débat, c'est le film de Claude Chabrol, Le Boucher, film de 70. Lundi 18 avril à 14h au Feu les Pompiers, film de Milos Forman dans le cadre de l'Université du Tiers-Temps. Et il se trouve qu'il est reprojeté le lendemain à 20h, toujours au Diagonale. Avec cette fois-ci une séance présentée par Jean-Philippe Trias, enseignant en esthétique et histoire du cinéma à l'université Montpellier 3. Et puis le mardi 19 avril, c'est la soirée Ciné Campus à 20h au cinéma Utopia avec le film Paprika de Satoshi Kon. C'est un film d'animation. Pour une fois qu'un film japonais n'est pas un film de Miyazaki, voilà. C'est une séance présentée et animée par François Barbeau, qui est dessinateur de BD. Et puis passe toujours à l'Utopia, Avant l'eau, Black Swan, Gazland, Katia le crocodile, Le discours d'un roi, Les femmes du sixième étage, qui a été égratigné par Jean-Pierre Mocky, Ma part du gâteau, qui lui aussi a été égratigné par Jean-Pierre Mocky, Nous, princesse de Clèves, Paprika, Si tu meurs, je te tue, True Grit, We want sex equality. Et un certain nombre de ces films ont déjà été chroniqués dans cette émission et on les a tous recommandés. Ainsi s'achève Cinérama.
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle fournée de critiques, de films, de dossiers, d'interviews peut-être.
Il n'y aura pas que du bon la semaine prochaine, je crois.
Oui, vu les sorties en salle.
Bah oui, des films que j'avais vus en avant-première.
Ah oui, c'est vrai, Coup d'éclat, La fille du pisse-vatier.
Voilà, ouais. Donc, mais il y aura quand même une interview de Catherine Fro la semaine prochaine.
Donc une émission à ne pas rater, à suivre sur Divergence FM, donc l'émission consacrée à la musique de film 24 notes secondes. Cette semaine, c'est consacré à Paul. Paul Verhoeven, donc très grand réalisateur, cher à mon cœur.
Ah, il y aura peut-être la musique de Turkish Delis, alors oui.
Oui, et puis celle de Robocop aussi, etc. Donc voilà, Paul Verhoeven dans 24 notes secondes.
En merci Bruno, qui était encore une fois à la technique. Et puis à la fin de ce générique, eh bien, vous pourrez écouter un extrait de Billy Elliot. Hein,
un autre film sur la danse.
Un autre film sur la danse, effectivement. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Alors tu veux faire danseur?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à être danseur?
C'est parfaitement normal.
Parfaitement normal.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Tu vois?
C'est normal pour ta grand-mère. Pour les filles. Mais pas pour les garçons, Billy. Les garçons font du football ou de la... boxe ou de... du catch. Mais ils veulent pas devenir danseurs de ballet.
Cinérama.
Tu comprends ce que je veux dire?
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.